Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, épisode 47. Dans l'épisode 9 de Aube, nous avons brossé un premier portrait de cette vaste thématique qu'est la santé. Dans ce 47e épisode, Aube explore d'autres avenues afin de rester en santé, que ce soit par la prévention, l'alimentation, les relations et les médecines naturelles. Au sommaire, plusieurs entrevues, notamment avec les organisateurs du défi sportif Altergo, Marie-Claude Tardy, ex-infirmière reconvertie blogueuse et communicatrice. Le Crocarium, des animateurs pour les groupes et les écoles. Sophie-Claudia Ouellet, massothérapeute de l'entreprise Solutions Santé Nature. Et Isabelle Cartier pour la prévention du VIH pour les petits cœurs de Montréal. En fin d'émission, Capitaine Bio affrontera l'infâme Sugar Buzz des industries tartrazines. Aube soigne des valeurs humaines, écologiques et collectives tout en appliquant un baume sur votre prise de conscience. Le mot-clé, guérison.
Me disait toujours, la santé, ça passe avant tout. Moi, je suis sûr qu'il avait raison, parce que c'est vrai que la santé, ça passe. Même que des fois, elle passe vite. Des fois, elle passe tellement vite, elle te dépasse, la santé. Et tu cours pour rattraper ta santé. Plus tu cours, plus t'es fatigué, moins tu la rattrapes. Et quand tu l'as perdu de vue, ta santé, très complètement perdu de vue, c'est là que tu t'aperçois. Mais dans la vie, c'est la santé qui a le plus d'importance. Bonjour, je sais. Il y en a qui disent bouffe la santé. Il y en a qui disent la santé, c'est pas grave. Il y a les docteurs qui sont là pour nous la rattraper, la santé. Oh, faut pas connaître les docteurs pour dire ça. Tu parles, ils ont autre chose à faire. C'est une supposition le matin, tu te lèves, hein. Tu te réveilles un beau matin. Mais qu'est-ce que j'ai? Oh, ça fait mal, j'ai mal. Tu vas pas passer la journée à faire rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours chez le docteur. Tu cours à toute vitesse, tu cours chez le docteur. Et t'es pas aussitôt arrivé chez le docteur, tu t'aperçois que ça valait pas la peine de courir, il y a plein de monde qui attend. Il y en a qui sont là depuis longtemps. Il y en a qui sont là depuis drôlement longtemps. Il n'y a qu'à voir les vieilles revues de l'année dernière qui disent. Et là, t'attends, et c'est long. Surtout quand tu sais pas lire. C'est long. C'est là que t'apprends à devenir un patient. Oui, bien sûr, ça peut être long, à un moment donné, c'est ton tour, on t'appelle, le docteur va te recevoir, et c'est vrai, il te reçoit, lui-même en personne. Il est là, devant toi, l'amphétamine radieuse. Le sourcil bronzé, il vient toujours de vacances. Il te regarde comme ça, il te reçoit du haut de sa convalescence. Alors, mon ami, ça n'a pas l'air d'aller du tout, vous avez le teint faramineux, vous êtes lipide. Docteur, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, c'est parce que je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas que... Calmez-vous, mon ami, on va vous soulager. Et là, tu te rappelles que les docteurs sont là pour soulager, tu parles. Ils sont obsessionnés par ça, ils pensent qu'à ça, soulager tout le monde. Toi, tu te dis, soulager, je vais faire, tu ne vas pas manger trop de morceaux. Le docteur, il est là pour prendre, il n'est pas là pour donner. Il est là pour prendre, c'est ça, la vraie réalité. Et plus tu es malade, plus il te prend. Il te prend ton tempérament, il te prend le pouls, il te prend ta tension caractérielle. Il prend sa grande médaille qu'il lui pend sur le centre médical, juste là. Sa médaille qu'il ne quitte pas depuis qu'il a quitté la facultative. C'est le tétanoscope. Il te promène ça tout froid dans le dos. Respirez. Oui, docteur, je respire. Depuis ce matin, j'arrête pas. Respirez encore. Respirez plus fort. Bombez l'entorse. Respirez plus fort, je veux entendre les tronches. Respirez, maintenant, toussez maintenant. Et toi, tu respire tous, tous, respire tous. Maintenant, ça y est, bon, maintenant, ouvrez, ouvrez. Non plus grand, tirez la langue. Bah, tu fais n'importe quoi pour lui faire plaisir. De toute manière, tirez la langue, respirez, tu fais ça depuis de haut comme ça, alors. Après, ensuite, il prend son grand doigt pointu et flatte comme une plante entre deux côtelettes. Ah! Oh! Ah! Oh! Mais là, il se déprime le diagramme. Ah! Oh! Oh! Oui, de mal! Oh! Oh! Enfin, finalement, il se calme. Et enfin, tu peux respirer. Et là, il se met à te poser des questions. Alors, dis-moi, mon ami, quand vous étiez petit, vous aviez des maladies?
Je voulais du nez, une petite affaire. Je voulais mon aspirine gratis. Fait que je me suis retrouvé à l'urgence à attendre longtemps. Une couple de jours sur les bancs de la salle. Avec mon petit poêle, mon sleeping bag. Pour faire griller des marshmallows jusqu'à temps qu'on colle. J'irais bien mieux avant de rentrer là. Parce qu'avec les champignons dans l'air, y'a des lits qui se libèrent à l'hôpital. Avec une civière, ils m'ont amené dans un couloir à me laisser pourrir du pognier. La maladie mangeuse de chair et puis même le scorbut. Pour avoir amputé ma jambe droite, prenant vos patients d'à côté. On fait une transfusion sanguine pour me donner l'hépatite C. La Béla A est plus si d'or. Pas besoin de fourrer des pouces à l'air pour pogner la grippe aviaire à l'hôpital.
Pour notre épisode sur la santé, je me suis entretenu avec Marie-Claude Tardy, ex-infirmière, maintenant blogueuse pour son site Feather and Birds et chroniqueuse pour Aube de la première heure sur son parcours dans le système de santé québécois.
Alors, moi, j'étais infirmière pendant 9 ans environ. J'ai travaillé à l'hôpital Saint-Luc pendant 3 ans et demi comme infirmière sur l'équipe volante. Et puis ensuite, j'ai travaillé comme enseignante à l'École de métiers des Faubourgs. J'enseignais à des infirmières auxiliaires. J'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Et après ce beau parcours et 2 dépressions, j'ai décidé de laisser et de dire merci. Je tire ma révérence et je vous laisse parce que je ne peux plus servir dans un système comme il est présentement. D'abord, moi, en fait, juste pour ajouter à mon background, j'ai étudié en médecine naturelle pendant quelques années aussi parce que, oui, justement, je cherchais des solutions. Et je me suis rendu compte qu'à travers le monde, en Europe, notamment aux États-Unis, dans le reste du Canada, on a des réglementations pour les naturopathes, les herboristes et tout ça. Bon, toutes les thérapeutes qui sont naturelles. Ici, on le voit un peu comme un charlatan. Parce que, à un moment donné, il y a des médias qui ont dit que certains de ces travailleurs-là étaient des charlatans. Donc, on a décidé de tout mettre dans le même panier. Ce qui est triste parce que c'est une façon, prime abord, de faire une avancée vers la prévention, des actes préventifs. Donc, que les gens sachent mieux se nourrir, qu'ils connaissent un peu les plantes médicinales, comme la camomille, par exemple, qui peut aider à la digestion, à l'inflammation, à mieux dormir. Je pense que ça serait aidant. Mais en même temps, il y a beaucoup de nuances à apporter. Je sais que la Guilde des herboristes au Québec a déjà commencé à faire des avancées avec Santé Canada par rapport à ça. Yes, je suis vraiment contente que ça se fasse. J'espère qu'ils vont ouvrir les valves pour les thérapeutes parce qu'on a des gens qualifiés qui connaissent la santé globale, qui connaissent l'environnement. Et je crois que ça serait vraiment une avancée importante pour le système de santé au Québec. Présentement, mon action préventive est plus éducative, soit que je prends les médias. Moi, je me suis redirigée en communication, finalement. Et je suis une artiste aussi, donc pour moi, les arts, c'est, c'est, c'est ma santé, c'est ma santé mentale, c'est ma santé physique. Et à travers les communications, je peux lancer un message qui va être préventif. Il y a un manque d'éducation évidente. Par exemple, dans les écoles, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on avait les cours d'éducation sexuelle, formation personnelle et sociale, qui étaient, ouais, ultimement des cours de santé, bon, on va dire mentale et sociale, mais il y avait quand même l'éducation sexuelle. Il y a un trou à un moment donné où est-ce qu'on a enlevé ces cours-là. J'ai entendu dire que ces jeunes-là, ils ont eu plus de difficultés à comprendre qu'est-ce que c'est que la sexualité puis l'intimité. Ça, pour en revenir à la prévention dans les écoles, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait faire. L'éducation physique, c'était déjà aussi quelque chose de bien. On avait très peu de cours sur l'alimentation. Comment qu'on se nourrit? On est fait de quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin dans notre alimentation? On a besoin d'oxygène? Pourquoi qu'on n'apprend pas à respirer mieux? Pourquoi qu'on ne médite pas? T'sais, c'est toutes des choses de base qu'on devrait apprendre à l'école ou jeune, qui amènerait finalement la société, en grandissant, dans une meilleure condition. Je pense qu'on aurait vraiment intérêt à améliorer la qualité de l'information dans l'éducation primaire, secondaire, donner accès à l'université gratuite. Je pense que ça serait vraiment un super bon move du gouvernement, puis le reste suivrait. Je vois plein de gens qui s'en prient. Puis c'est pas des itinérants, c'est des gens dans la classe moyenne qui ont du talent, qui ont intelligence, qui sont allés à l'université, qui sont endettés par-dessus la tête. Puis là, on s'en va dans un système qui empêche les gens normaux de pouvoir avoir accès à ces soins-là, qui sont de base. C'est large. La santé, pour moi, c'est global. J'ai toujours utilisé le terme santé globale quand je parle de santé. La santé, c'est l'environnement, c'est la psyché, c'est la spiritualité, c'est le corps physique, c'est relationnel, c'est les connaissances, c'est l'éducation, on le sait. C'est une philosophie. La santé, c'est une philosophie en soi. Donc, c'est global, ça touche à tout, puis c'est d'améliorer nos conditions. Comme ça. Par exemple, les CLSC étaient une très bonne façon de pouvoir aller dans les milieux, dans les maisons des gens, finalement, pour apprendre à les connaître davantage, parce qu'un patient est une personne, donc elle vit dans un milieu, d'aller les rencontrer chez eux, ça nous permettait de les comprendre vraiment dans toute l'histoire de leur vie, et à la fois, ça désengorgeait les hôpitaux. Présentement, on a des listes d'attente pour des opérations, on a des listes d'attente à l'urgence, et là, on est en train de nous diriger vers le privé. On enlève l'argent du public pour le diriger vers le privé, donc je crois que cette réforme-là nous amène vraiment à handicaper la classe pauvre de tous ces moyens-là, la classe qui en a le plus de besoin, et là, c'est problématique. Et on va le voir, on le voit déjà et on va le voir de plus en plus dans les années à venir. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre du passé, par exemple, qu'on pourrait rajouter dans notre présent, puis dire, OK, avec les technologies qu'on a, on prend les connaissances du passé, par exemple les plantes médicinales, qu'on intègre dans notre vie, puis on continue comme ça, dans cette avancée-là. Parce que tout ce qui était nutrition, plantes médicinales, c'est complémentaire à l'autre système. Ce n'est pas une opposition. Puis c'est ça que les gens ont tendance à faire. Oui, il y a quelque chose de bon dans le passé. Qu'est-ce que ça va faire quand nos parents, qui ont 60 ans, dans, mettons, 10-20 ans, sont plus capables de s'occuper d'eux à la maison? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous qui avons de la misère à payer nos loyers, nous qui avons de la misère à mettre un pain sur la table, on sera pas capable de prendre nos parents à notre charge. On va avoir besoin de CHSLD. On va avoir besoin de soins de qualité. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? La privatisation? On va se fier à nos assurances? Je suis pas sûre.
Pour Aube, c'était une entrevue de Philippe Perrin.
Du 25 avril au 1er mai avait lieu à Montréal le défi sportif Altergo, une compétition sportive internationale qui réunissait 5000 athlètes avec handicap, de l'élite et de la relève. Impressionnant de voir autant de sportifs et d'adresse pour des personnes qui ont parfois de très lourdes incapacités physiques et fonctionnelles. Il s'agit en quelque sorte de jeux paralympiques, mais incluant les sportifs avec handicap neurologique. Le volet scolaire réunissait des jeunes de partout au Canada et le volet élite a permis de voir des athlètes d'une vingtaine de pays s'affronter dans des compétitions impressionnantes de paracyclisme, de hockey sur luge, de boccia, de rugby en fauteuil roulant, de marathon, de natation, j'en passe et des meilleurs. Ce World Open d'Amérique leur a permis de se préparer pour les Jeux paralympiques de Rio en septembre 2016. Ayant participé en tant que bénévole durant 3 jours, j'ai pu assister aux matchs de boccia et aux compétitions de natation, côtoyer les athlètes, prendre la température du lieu, interroger l'entraîneur de l'équipe nationale de boccia, Mario Delisle, et le porte-parole de l'événement, Jean-Marie Lapointe. Bon, alors on va déjà parler du boccia. C'est quoi exactement?
Bon, le boccia, d'abord, c'est un sport de précision. C'est un sport qui est pratiqué par des personnes ayant des handicaps physiques quand même assez sévères. Nous sommes une discipline au niveau des Jeux paralympiques. Donc, depuis 1992, à Barcelone, le boccia fait partie de la liste des sports qui sont éligibles à chaque 4 ans. C'est le sport dans le milieu paralympique pour les personnes qui ont des handicaps les plus sévères, les personnes qui ont des difficultés motrices là, quand même évidentes. Là. On parle de personnes en fauteuil roulant qui peuvent avoir de la difficulté à pousser un fauteuil roulant manuel. Beaucoup aussi de paralysie cérébrale, gens qui ont des paralysies cérébrales qui jouent au boccia. Mon travail, moi, consiste à, évidemment, travailler avec ces personnes-là pour développer leurs habiletés au niveau de ce sport-là qui consiste, en fait, à lancer des balles de cuir qu'on utilise pour le boccia. Donc, il y a 6 balles rouges, un jeu consiste en 6 balles rouges, 6 balles bleues et une balle blanche qu'on appelle le cochonnet, un peu comme à la pétanque. Et le but du jeu, donc, c'est de se rapprocher le plus possible de la balle blanche. C'est un sport international, donc évidemment, étant une discipline paralympique, nous sommes amenés à voyager un peu partout dans le monde avec nos athlètes. Ces sorties-là, finalement, ces déplacements-là pour aller participer au tournoi nous permettent là, d'acquérir les habiletés nécessaires avec nos athlètes pour éventuellement gagner des médailles pour le Canada au niveau des Jeux paralympiques.
En tant que bénévole, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment impressionnant de voir des personnes avec des handicaps parfois très lourds avoir plus d'adresse que nous pourrions avoir, nous, en étant valides. Le degré de maîtrise et de concentration développé alors que l'on est diminué et parfois que l'on a une maladie dégénérative est réellement bluffant. Ce genre de compétition internationale, en plus, est extrêmement motivant pour les athlètes qui, enfin, sont mis sur le devant de la scène. En rencontrant des adversaires d'autres pays et un sport qui devient vite une passion, les athlètes sont stimulés et forcent leurs capacités largement plus que s'ils n'avaient pas cette activité. Mario Delisle nous en parle.
De participer à une activité semblable pour tous les gens qui commencent, ça leur apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'autonomie aussi. Et je vous dirais, peut-être en plus même, beaucoup de confiance. C'est une clientèle qui n'a pas un accès évident, évidemment, au sport. Et puis, généralement, les personnes qu'on trouve qui commencent à jouer se disent « Enfin, quelque chose pour moi. Enfin, un sport pour moi. Un endroit où je peux compétitionner avec d'autres personnes, qu'on peut échanger au niveau social, faire des amis aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Et puis, les personnes... La plupart du temps, qui embarquent au boccia, ça devient une passion pour eux. Parce que c'est un endroit de rassemblement, mais aussi en même temps un endroit où ils peuvent se dépasser et puis atteindre de se fixer des objectifs et puis atteindre ces objectifs-là jusqu'à des compétitions internationales et des podiums paralympiques.
Au-delà du boccia, d'autres sports impressionnent par la maîtrise qu'ils supposent. Jean-Marie Lapointe, qui est le porte-parole de l'événement depuis maintenant 15 ans avec Chantal Petitclerc et qui est au front durant les 7 jours que dure l'événement, a déjà essayé plusieurs sports. Il nous parle notamment du rugby sur roue, un sport de gladiateur moderne pour lequel il a eu un coup de cœur.
Le sport que j'ai essayé, et j'avoue que le rugby en fauteuil, c'est dans mes cordes. C'est un sport de contact, c'est un sport de vitesse, c'est un sport de stratégie, c'est un sport où ça frappe fort. Et les gars qui jouent au rugby, il y en a beaucoup qui ont perdu l'usage de leurs membres suite à un accident d'auto, un accident de moto. On dirait qu'ils ont comme une personnalité particulière. T'sais. Je veux pas dire que c'est des casse-cou, je veux pas dire que c'est des gars extrêmes, mais il y en a une couple, tu dis, ils ont un caractère, ils ont une personnalité là, hors du commun, puis un peu intense. Puis quand j'ai fait le sport, je l'ai essayé, le rugby, j'ai adoré. J'ai tout de suite cliqué avec les gars, puis avec le sport. Puis c'est drôle, pas plus tard qu'aujourd'hui, je suis allé les voir pratiquer et s'entraîner au Cégep Édouard-Montpetit, puis je leur ai dit, les gars, tu sais, vous avez été les premiers à me faire voir qu'on peut avoir une vie hallucinante, même si on perd l'usage de ses membres, puis que si j'avais un sport à choisir, ça serait le rugby. Le rugby en fauteuil, il y a un magnifique documentaire qui a été fait il y a quelques années qui s'appelait Murder Ball. Ça porte bien le nom, Murder Ball. Tu sais, c'est vraiment assez extrême et intense. Ça se joue en fauteuil. Les gens pensent que ça ressemble à des fauteuils de basket en fauteuil, mais pas du tout. C'est pas du tout le même fauteuil. Je pense que ça vaut la peine de faire une petite recherche sur Google puis de taper rugby fauteuil. Vous allez voir que le fauteuil, ça a l'air quasiment d'un char d'assaut. Ça a l'air d'un... on se croirait dans un film de Mad Max, là, tellement que c'est une armature. Il est extrêmement léger, extrêmement mobile, mais il est frais aussi pour recevoir et donner des coups. Parce que, contrairement au rugby, chez les bipèdes, le rugby en fauteuil, il n'y a pas de coups volontaires sur le corps de l'athlète. Il va y avoir des collisions, et les gars vont s'accrocher, mais tu ne peux pas attraper les jambes de ton adversaire. Tu vas essayer d'attraper le ballon, ça se peut que tu accroches les bras au passage, mais il n'y a pas de coups à la tête, il n'y a pas de coups volontaire. Alors, il faut imaginer une gang de gars qui sont sur le terrain, 4 contre 4, et puis qui sont en fauteuil, puis que s'il y a de la stratégie, ça va se bloquer, puis le ballon ressemble à un ballon de volley-ball.
Bref, cette compétition, c'est à la fois une magnifique stimulation pour les athlètes, une occasion d'échanger entre valides et personnes ayant un handicap, et une belle leçon de vie. Si vous avez vous-même un handicap ou que vous souhaitez vous investir dans le boccia en tant que bénévole, il existe des clubs à Montréal et en région. Vous pouvez rejoindre l'Association québécoise de sport pour paralytiques cérébraux en allant sur le site. Enfin, n'oubliez pas que chaque année, le défi AlterGo a lieu, donc n'hésitez pas à vous porter bénévole pour aller donner un petit coup de main.
C'était un reportage d'Aurélie Suberchico.
La gare malade est belle quand elle chante une balade. J'avoue, c'est obsessionnel, j'en oublie ma salade. Sa voix douce comme du miel qui se répand dans ma croustade. J'en mangerai à l'appel, mon cœur bat la chamade. Une année à Noël, je buvais une orangeade. Il y avait un show de gospel mixé avec du trad. Sa voix résonnait tellement que je tombais en bas de l'estrade. Il m'a poussé des ailes, plus de dégringolade. J'ai dit, t'es dans ben swell, on veut-tu jouer aux arcades? Un petit gin ginger ale, notre première accolade. La garde malade est belle, mais ce n'était qu'une façade. Elle a sorti les poubelles, elle me trouvait un peu fade. J'étais dans ses beaux draps qu'elle enveloppait autour de moi. J'étais dans ses beaux draps, j'étais comme un pied dans un. Malades sont belles, j'aime ça qui me garde malade. À première étincelle, moi je saute les barricades. Les gardes malades sont belles, mais des fois c'est des grenades. Ça pète comme des boules de Noël.
En errant sereinement dans la grotte que maître Garibaldi laissait à ses ouailles, je rencontrai un ruisseau et en le suivant me perdis dans les méandres sombres de différents tunnels. La nuit commença à poindre en même temps que je m'enfonçais, ignorant où j'allais arriver, au plus profond du chemin rocailleux. Les ombres s'élargissaient et dans la masse de plus en plus grise de mon univers, j'eus la joie de découvrir que quelques lumières persistaient malgré l'obscurité. Une mousse fine s'éclaircissait sur les murs en diffusant une lumière délicate, empreinte d'une douceur sans nom. J'y frottais mes mains en dispersant leurs spores dans le tunnel. Après ce qui aurait pu être une heure de marche, le ruisseau disparut dans une traverse minuscule. La lumière aussi et lentement, je découvris mes autres sens tandis que ma vue rétrécissait jusqu'à sombrer au cœur de l'ignorance. Un monde nouveau s'offrit à moi, teinté par le rythme clairsemé des gouttelettes suintant d'un plafond immobile, l'odeur fraîche de la moisissure et l'humidité qui glissait sur ma peau en y déposant un peu de froideur. Je fermai les boutons de ma chemise en frissonnant. Un aveugle aurait-il mieux trouvé son chemin que moi dans l'obscurité totale ? Peut-être n'aurait-il pas vu en se retournant les lumières aguicheuses des petits organismes, mais il aurait sans doute entendu avant moi les pas qui erraient dans le labyrinthe à mes côtés. Toujours est-il que je me perdis dans les méandres secrets sous la terre, mon inconscience m'avait poussé à continuer ma route bien loin de la sortie, et bientôt je courais, le cœur rempli d'angoisse pour retrouver ma route. Mon chemin s'arrêta lorsqu'un tout sautement me fit sursauter.
Qui êtes-vous ? Je vous demande pardon. Vous, là, je sens votre présence, qui êtes-vous ? Ah, moi, rien de spécial, continuez votre route, ce sera mieux pour nous deux. Veuillez m'excuser, mais je tourne en rond depuis quelque temps et j'aimerais donc faire une pause, et puis j'aimerais apprendre d'où vous venez, monsieur, du même endroit que vous. Dans l'entrée, vous voulez dire ? Non, pas exactement. D'un autre chemin, vous voulez dire, alors ? L'un des multiples que j'ai croisés ou et que je n'ai pas choisi. Je pense avoir fait comme vous, j'ai emprunté les chemins, mais plutôt, je ne les ai pas choisis. J'ai décidé de tous les prendre. Cela est impossible, voyons. Combien de chemins y a-t-il, à votre avis ? Un seul ou mille, je ne sais pas, je n'ai rien vu. Alors, comment pouvez-vous assurer qu'il était impossible de tous les emprunter ? Là n'est pas la question, bougre de... Oh, la question est de savoir si, ayant emprunté la même route que moi, vous auriez souvenir du chemin emprunté. Non, aucun souvenir. Pour ainsi dire, je ne me rappelle pas de grand-chose avant votre arrivée. Donc vous n'étiez pas avec moi tout le long. Mais si, bien sûr, je suis avec vous. Je suis venu avec vous. Mais je ne me rappelle de rien, mis à part de vos pas. Ah, cela ne nous avance à rien, la belle affaire. Ah, elle aussi, il me semble que je viens de naître. De naître. Vous vous foutez de moi. Pas le moins du monde. Alors comment est-ce possible ? Vous me semblez plutôt mûr, grand, mature. Vous voulez me fourvoyer, c'est certain. Non, non, je vous assure. Allons, posez-moi une question que seul un individu pratiquant le langage comme je le pratique peut connaître. Qu'est-ce qu'un adjectif ? Je n'en ai pas la moindre idée. Il est facile de mentir face à une telle question. Bien, je n'ai pas de corps, alors partons par là. Je vous assure, de ma bonne foi, je n'ai pas de corps. Pas de corps, foutaise. Si vous continuez, je m'en vais. Je préférerais me perdre que de rester avec vous. Espèce de farfelu. Eh bien, vous m'entendez ? Je suis près de vous. Voyez mes pas. Tentez de me toucher. Dans l'obscurité, cela est bien difficile, mais attendez. Où êtes-vous passé ? Là, vous êtes sur moi à l'instant. J'ai bien l'impression que vous me soufflez à l'oreille. En effet. C'est sidérant. Une voix désincarnée. Pas exactement. Enchanté, je me présente Cassière. Enchanté, Cassière. À défaut de vous serrer la main, je vous salue. Je me présente, Maître Tubercil. Je suis perdu autant que vous. Je suppose. Enchanté, Monsieur Tubercil.
Le bougre que je venais de découvrir semblait sortir de nulle part et amenant plus avant la conversation, j'eus l'assurance de rencontrer un être jusqu'alors inconnu du monde entier. C'est ainsi que j'ai appris que dans l'obscurité naissent les chimères.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plus tôt au début de l'émission, nous avons entendu une entrevue avec l'organisateur du défi sportif Altergo. Marie-Claude Tardy, ex-infirmière et blogueuse, et l'apostrophe de M. Tubercil affrontant ses propres chimères. Et la musique des violents Cachalot avec À l'hôpital et d'Olivier Bellil avec Garde malade. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com. À venir dans la deuxième partie, une entrevue avec les animateurs du Crocarium, une entrevue avec Sophie Clausier-Ouellette de l'entreprise Solutions Santé Nature et Isabelle Cartier pour les Petits Cœurs de Montréal. Le Capitaine Bio affrontera l'infâme Sugar Buzz dans le radiothéâtre de fin d'émission. Sans oublier la musique de Gérard Gente avec L'Hôpital et un mot de mon oncle Plu-Plu avec Cowboy Blues. Sophie Clausier-Ouellette, de l'entreprise Solutions Santé Nature, offre des soins de santé en lien de près ou de loin avec la massothérapie.
Souvent, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Les gens ont grandi physiquement, mais pas émotionnellement. À l'époque, j'étais coiffeuse. Et puis, les gens me parlaient souvent de leurs problèmes de santé, de leurs problèmes de ci, de dos, leurs problèmes émotionnels et tout ça. Puis, je me disais, mais j'aimerais ça les aider un peu plus, mais là, je fais juste les rendre beaux puis belles à l'extérieur. J'aimerais ça les rendre beaux puis belles à l'intérieur. Que le cheminement que je faisais, ça me libérait beaucoup de trucs que j'avais vécu, de la colère, de la déception, de la rage et tout ça. Donc, je voulais les aider à mon tour. Parce que je sais qu'il y a quelque chose à faire, mais je sais aussi que c'est pas tout le monde qui sont rendus là. De là est venue l'idée, plus tard, après une séparation, d'aller suivre un cours en massothérapie. Puis, du moins, d'aider à guérir les gens de manière physique. Puis je trouvais que c'était une belle porte d'entrée aussi pour amener à parler des émotions. Parce que quand on fait remplir un bilan de santé, ben pour ma part en tout cas, mon bilan de santé est quand même assez complet. Donc j'ai plein de questions que je leur pose, les amener à réfléchir sur des choses ou de leur vie. Et il y a beaucoup de réponses aussi que j'ai découvert là-dedans. Mon approche, c'est vraiment une santé globale. Fait que j'essaie toujours d'amener les gens à réfléchir sur ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui a causé ces problèmes de maladie-là ou ces problèmes de dos, ou peu importe. Je donne le massage suédois, le massage pour femmes enceintes, le massage pour les enfants, le massage aux pierres chaudes, la réflexologie. Le Reiki, je le donne d'une autre façon. Je donne pas nécessairement de Reiki précisément, mais plus au niveau nettoyage énergétique intuitif. Et je fais aussi des massages en entreprise au niveau de massage sur chaise. Et aussi à mon bureau pour les gens qui sont pressés, qui veulent juste une petite demi-heure vraiment travailler le dos et comme ça, donc je l'offre aussi. J'offre aussi les bains de pieds pour nettoyer le corps au niveau avec des ions négatifs. C'est un massage qui provient un peu de toutes sortes de techniques que j'ai adaptées pour rendre mon massage encore plus enveloppant, encore plus précis, encore plus relaxant. Tous mes produits sont écologiques, biologiques ou du terroir. Je fabrique mon propre savon, donc tous mes draps sont lavés avec mon savon que je fais à la maison. Il n'y a aucun produit chimique qui est utilisé. Mon matériel, j'utilise rien de jetable. Je fais vraiment attention à tout pour l'environnement. Je trouve ça important que ce soit mes huiles à massage qui sont organiques. Que ça soit, par exemple, j'irais même dire jusqu'à ma table de massage qui a été fabriquée par un artisan. Personnellement, je trouve ça plus avantageux, facile. Quand tu t'en vas au centre-ville, c'est là où sont toutes les tours à bureaux. Donc, pour moi, c'est bien beaucoup plus facile de me voyager avec mon vélo pliant, mais mon petit trailer à vélo. Puis, j'installe ma chaise là-dessus avec tout mon bagage que j'ai besoin, mon lunch pour la journée et tout. Et puis, go, je m'en vais travailler. Les gens pensent que c'est un instrument de musique. Je pourrais dire que c'est un instrument de musique. Je joue avec les cordes sensibles des gens. Et des entrepreneurs décident de vraiment incorporer le massage dans leur entreprise, que ce soit pour des raisons de santé ou pour simplement remercier leurs employés qui font du bon travail puis qui continuent de faire du bon travail et tout ça. Donc oui, je me déplace et je suis pas seule non plus. Si on a besoin d'être plus qu'une, plus que moi personnellement, j'ai des gens qui travaillent avec moi, donc on peut très bien fournir pour des entreprises là. À ce niveau-là. En 2016, je crois personnellement que chaque entreprise devrait avoir une massothérapeute qui vient masser les employés, soit une fois par semaine ou au moins une fois par mois. Les gens sont très, très, très noués au niveau du cou, des épaules. Souvent, c'est les maux qui reviennent beaucoup au niveau du bas du dos aussi. Même s'ils ont un espace de travail super ergonomique, ces tensions-là restent. Je trouve que l'énergie du plateau ici à Montréal est vraiment une énergie des gens. Ils sont prêts à... Ils cherchent des solutions puis sont prêts à aller consulter dans ce domaine-là. Et puis, c'est pour ça que j'ai trouvé un super de beau local sur Saint-Joseph, au 1238 Saint-Joseph-Est, juste à côté de la piste cyclable. C'est vraiment super facile d'accès. Ça me permet de donner l'espoir dans la tête ou dans le cœur de ces personnes-là que leur vie n'est pas finie, n'est pas foutue, qu'il y a des choses, il y a des solutions à apporter.
Pour en savoir plus, visitez le site solutionssanténature.com.
Est-ce que tu aimes les brocolis, les petits pois, les choux? Non? Eh bien, c'est peut-être parce que tu n'as pas commencé tout petit. En effet, la formation du goût se fait dès le plus jeune âge. Alors si tu as mangé des frites, des pâtes et du pain, c'est sûr que le vert, ça doit te donner quelques boutons. Un organisme faussement déjanté appelé le Crocarium propose des animations autour de la nourriture et des aliments. Leur mission? Eh bien, c'est permettre aux enfants de découvrir des fruits, des légumes, des herbes qu'ils ne connaissent pas ou pour lesquels ils ont une forte aversion. On leur fait découvrir un nouveau goût, mais aussi l'origine de l'aliment et la manière de l'apprêter. Leur approche se base non pas sur le conseil scientifique, le fameux « mange c'est bon pour la santé » ou « mange tes carottes, ça fait les fesses roses », mais plutôt sur le plaisir et l'aspect ludique de la découverte. On écoute Mélanie Mercier, coordonnatrice aux communications.
C'est un organisme en éducation alimentaire sensorielle, c'est-à-dire qu'on se préoccupe de l'éducation alimentaire, de la terre à l'assiette, en passant aussi évidemment par le mangeur. Donc celui qui goûte, qui est le centre de l'ensemble des programmes qu'on va développer. Les programmes qu'on propose concernent à la fois les jardins directement, donc on est vraiment tout dans l'apprentissage qui peut se faire autour d'un jardin, mais aussi quand on parle du goûteur, donc toute l'éducation sensorielle au goût et toutes les sphères qui viennent avec l'éducation alimentaire et l'alimentation propre. Autant le corps que le contexte dans lequel on est, que les relations qui vont se créer autour de l'alimentation, parce qu'on le sait, on travaille beaucoup avec les enfants. Les enfants vont souvent prendre plusieurs repas à l'extérieur de la maison, dans les services de garde, dans les milieux de petite enfance, dans les écoles. Donc c'est là principalement que Crocarium travaille, à la fois de façon directe avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Donc, on va travailler en transfert d'expertise à former les gens, les adultes qui travaillent avec les enfants pour que le plaisir de manger se réinstalle et devienne un vrai outil de développement puis de bien-être pour les enfants.
Alors c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça se passe? On a donné la parole au sieur de Petit Pois, personnage haut en couleur de Crocarium, qui intervient directement sur le terrain, au front, devant les enfants.
Moi, je suis le sieur de Petit Pois et je suis avec les enfants à faire de l'animation et leur présenter des aliments. Les enfants vont être interpellés par leur sens, par une expérience qui me fait vivre quelque chose et me ressentir un plaisir. Si je ressens un plaisir, je vais avoir le goût de le répéter. Quand on dit à un enfant « mange une pomme, c'est plein de vitamine C », ben ça lui dit pas grand-chose. Mais si je lui dis « regarde, j'ai deux pommes, laquelle t'aurais le plus envie de manger? Est-ce qu'ils ont la même couleur? » Pour amener l'enfant à découvrir l'aliment avec quatre de ses sens et lui laisser le choix de le mettre en bouche. De déjouer, en fin de compte, le fait que j'ai un adulte, je vais lui goûter pour lui faire plaisir, mais lui faire ressentir un plaisir pour qu'il répète l'expérience. On va dans les écoles, les services communautaires, les centres communautaires, puis les CPE. Faire de l'intervention directe sur le terrain auprès des enfants avec des activités montées. Et on fait du transfert d'expertise aussi. Je fais de la formation, principalement notre premier programme qu'on a monté, c'est pour les CPE et les RRG. Qui sont, dans le fond, ceux qui mangent le plus avec les enfants. Fait que c'est leur présenter l'approche par le goût, puis dans le fond, on commence souvent la formation en disant « il n'y a pas d'enfants difficiles, on va essayer d'en faire la preuve. » On va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de goûter ou qu'ils ne veulent pas goûter.
Et est-ce que ça marche? Petit exemple avec une histoire de vinaigrette.
Ben, j'ai une anecdote quand même intéressante, mais que c'est la femme, une mère qui me raconte qu'elle avait appris à faire de la vinaigrette avec nous autres lors d'un événement caravane. Et puis là, elle, chez eux, ils ne mangeaient pas du McDonald's. Et puis, sa petite fille entend parler du McDonald's, elle va aller découvrir le McDonald's parce que ses amis aiment ça. Fait qu'elle va au McDonald's, elle est en train de manger son plat qu'elle avait choisi, et puis elle se met à pleurer. Elle dit « Maman, j'aime pas ça, c'est pas bon. » Et pour la consoler, sa mère lui dit « On va aller se faire une vinaigrette comme on a fait avec Crocarium l'autre fois. » Parce qu'elle, sa mémoire positive n'était pas Ronald le clown, c'était plus un sieur de Le Petit Pois, une de nos personnages. Et les mémoires qu'elle a eues d'un bon souvenir, c'était relié à ces aliments-là. Fait que si on... Le goût, c'est un exercice avec la mémoire, avec le cerveau, hein, à la fin. C'est que si j'aime ça et j'ai un bon souvenir, je vais avoir le goût de le répéter. Fait que si on présente du sucre, ben, pour avoir le goût de répéter le sucre, si on présente d'autres aliments, on va créer d'autres mémoires, puis on va changer l'alimentation chez l'enfant par ce moyen-là.
L'alimentation, c'est bien, mais Crocarium envisage aussi l'élargissement des horizons. Crocarium encadre les enfants et les ados dans des activités de jardinage et de préparation de potager.
Il y a tout un autre volet où là, le jardin, on vient de faire deux jardins. Sur notre site à Crocarium. Un jardin qui est le jardin éducatif où les enfants peuvent aller jardiner avec nous autres, découvrir qu'est-ce qu'il y a dans le jardin, à travers des jeux aussi. Et puis, on a un autre jardin qui est le jardin jeune entrepreneur, qui s'adresse plus aux ados, où les enfants jardinent pendant tout l'été, mais à chaque semaine, ils vont au marché vendre ce qu'ils ont cultivé, d'où le jeune entrepreneur. Et ce programme-là, on a 640 milieux, je pense, de formés à travers le Québec à jardiner avec les enfants. Garderie, école, milieu communautaire.
Bref, Crocarium est une espèce d'hybride entre des clowns et des nutritionnistes. Le programme est bien ficelé, solide et intervient dans les écoles, les centres communautaires, mais aussi auprès des résidents d'un même quartier qui souhaitent organiser une activité pour les enfants. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur crocarium.ca.
Pour Hope, c'était une entrevue d'Aurélie Superchico.
Les petits fleurs de Montréal, ce sont des petits personnages qui sont arrivés sur Terre, qui venaient de la planète Cœur. Et en fait, ils devaient rencontrer le personnage de l'artiste québécoise, mais ça ne s'est pas fait. Donc en fait, c'était le fait qu'ils se rencontrent, c'était la survie de leur planète. Et comme ils ne se sont pas rencontrés, la planète a implosé. Et donc, tous les petits cœurs sont venus habiter sur Terre, et plus précisément, Montréal. très étonnée de voir des petits personnages avec des têtes de cœur qui se demandaient d'où ils venaient, qu'est-ce que c'était. Puis finalement, petit à petit, ils sont aperçus qu'ils n'étaient pas méchants, que voilà, ça, c'est devenu des amis. Et puis il y en a même certains qui sont tombés amoureux. Mais il y a eu un problème un jour, c'est que certains petits cœurs sont tombés malades. Et on ne savait pas ce qu'ils avaient. Donc les médecins ont cherché ce qu'ils avaient, les chercheurs. Et puis un jour, on s'est aperçu, en fait, qu'ils avaient attrapé le VIH.
La maladie de l'amour,
exactement. Les petits cœurs font une campagne de sensibilisation et de prévention auprès des terriens pour leur expliquer que c'est important de se protéger pour ne pas attraper le VIH et ne pas le transmettre. Plus le VIH que le sida, en fait. Ce que je veux, c'est que les personnes, tout le monde, soient conscients qu'il faut se protéger pour ne pas contaminer les autres et
se dépister.
Voilà. Et aussi se dépister régulièrement si on a plusieurs partenaires. Et puis le jour où on a un partenaire, un seul partenaire, évidemment, faire un dépistage aussi s'il n'y a plus de préservatif. Bonjour, je m'appelle Isabelle Cartier et je suis l'organisatrice des Petits Cœurs de Montréal. Donc les photos, c'est régulièrement. Je vais avec des personnes qui aiment mon projet dans les rues de Montréal. Donc ça peut être devant les murales, ça peut être, la dernière fois c'était Place des Arts. La dernière fois on était accompagné d'intervenants, donc de musiciens, un groupe de jazz. On va se prendre en photo, toujours avec des messages, parce qu'à chaque fois on met un petit message sur le VIH. Les gens apprécient et puis trouvent ça rigolo. Puis je trouve que c'est une autre manière de parler du VIH, un peu ludique, qui soit pas vraiment médical et classique et où les gens comprennent rien avec des termes médicaux. Alors que là, on se fait prendre en photo si on a envie, on regarde les photos, on les voit passer, on écoute les musiques qui vont avec. Puis c'est rigolo, voilà, des personnages avec des têtes de cœur.
Pour en savoir plus, surveillez hashtag les petits cœurs de Montréal sur Facebook ou via Twitter.
Bienvenue à ce quatrième épisode du Capitaine Bio. Cette semaine, celui-ci enquête du côté d'une transnationale transformatrice de sucre raffiné du nom de Dartrazine. Retrouvons Chicken Nugget et notre capitaine préféré dans la cuisine de ce dernier alors que nos deux compars se disputent une partie de Scrumble d'une rare intensité.
Et Colin de Ben de Fly Ben de Patate Crute Varte Verte.
Nana, j'empoche les haricots d'or et bon appétit la compagnie.
Mais c'est pas juste. Je vais ouvrir. J'arrive.
Bonsoir, vous êtes le capitaine Bio?
Bonsoir, à qui ai-je l'honneur?
Je me nomme Dubrita, Mademoiselle Dubrita.
Enchanté, entrez donc.
Voyez-vous, c'est un peu délicat.
Mademoiselle, sachez qu'il n'y a rien qui arrête le capitaine Bio. Après tout, je me nourris exclusivement d'aliments biodynamiques.
C'est mon fils, voyez-vous. Tout a commencé lorsque lui et ses amis ont commencé à manger du beurre de sucre composé sur ses rôtis le matin. J'ai beau lui interdire, ne pas lui en acheter. Une fois arrivé à l'école, vous savez, ils ne servent que cela à la cafétéria le matin. Depuis que l'école est sous l'hégémonie des compagnies avec leur satané partenariat public-privé, qui force les écoles sous-financées à avoir recours aux bonnes grâces de grosses compagnies, mon enfant est en train de muter tellement il a absorbé de sucre. Il a pris 22 kilos la saison passée, sans parler de ses petits amis qui, eux, ont littéralement doublé en superficie.
Vous parliez d'un monopole alimentaire. Connaissez-vous la ou les compagnies qui bénéficient le plus de ce partenariat?
La compagnie se nomme Tartrazine.
Mademoiselle, sachez que le capitaine Bio va faire un exemple de ce partenariat à la noix.
Pendant ce temps, dans les profondeurs de la cité-usine de Tartrazine, Sugar Boss s'entretient avec Toute Pat Linda, son adjointe, Orange Sanguine, sa garde du corps, Junkie Julie, sa fiancée, et Crystal Clear, sa nouvelle secrétaire particulière, tous membres des Super Chéries, un groupe musicalo-criminel affilié à la gamme de produits pour enfants des industries Tartrazine.
Alors, Toute Pat Linda, le bilan des derniers mois.
Tout va pour le mieux. Notre programme fonctionne à merveille. Des millions de litres des produits Sugar Buzz ont été donnés gracieusement en commandite aux écoles participantes. Dans quelques jours, des milliers d'enfants seront sous le contrôle de Tartrazine, incapables de sevrer leurs papilles gustatives.
Bien. Junkie Julie, as-tu réussi à infiltrer les garderies bio avec notre ligne de cochonnerie biologique?
Bien, c'est plus compliqué que je croyais. Avec la récente tournée du Capitaine Bio dans les garderies, les éducatrices sont encore sous le charme de ce héros en collant.
Je veux une étude des habitudes d'achat de ces garderies. Arrangez-vous pour acheter le fournisseur de denrées alimentaires de ces dernières. Toute pâte et toi, ma belle sanguine, occupez-vous de la tournée de Sugar Boss dans les garderies bio. Nous allons écraser toute forme de compétition en rachetant la compétition. Avec tous ces bambins, futurs consommateurs des produits Tartrazine, notre monopole est assuré et l'hégémonie de nos produits sur le marché sera totale.
Lors de sa dernière tournée des garderies bio, Chicken Nugget se souvient à présent d'une conversation téléphonique entendue par l'embrasure d'une porte entrebâillée entre la directrice de la garderie et une mystérieuse interlocutrice.
Tu vois, Bio, je viens de vérifier auprès de la directrice de la garderie et elle m'a confirmé qu'elle discutait avec son nouveau distributeur de produits biologiques et cette compagnie est en fait une propriété de Tartrazine Incorporée.
Je vois. Je crois que nous avons maintenant suffisamment de preuves pour mettre le colonel Kentuck au diapason. Quant à nous, allons infiltrer leurs usines à la recherche d'indices.
Dans les locaux de Tartrazine, Bio et Nugget, infiltrés parmi les employés habillés d'uniformes aux couleurs de Sugar Boss, recueillent les indices prouvant la culpabilité de cette multinationale. Arrivés devant l'immense réacteur contenant les fameux produits Sugar Boss, nos deux compars sont repérés par une des travailleuses qui sonne l'alarme générale. C'est alors que de tous bords, tous côtés, nos héros sont assaillis par des dizaines de poudingues, les employés complices de Sugar Boss et de Sisbeer. Ceux-ci eurent au fait de ligoter notre biodynamique duo.
Tiens donc, nous voilà enfin face à face, cher capitaine Bio.
J'ai enfin les preuves que Tartrazine empoisonne nos enfants en les gavant de sucre. Qu'ils soient bio ou non, l'Occidentaux moyen consomme de 3 à 4 fois son poids en sucre par année. C'est complètement dément.
De plus, votre stratagème pour contrôler la distribution alimentaire dans les garderies bio a été percé à jour par le colonel Kentuck.
Vous parlez de ce vieux fou de colonel à la retraite? Lui et son escadron de choc lacto-fermenté est présentement en train de passer le test du goût. S'il répond correctement à la réponse, je consentirai peut-être à les relâcher.
Dans une vitrine, on peut voir le colonel bâillonné et ligoté en train de se débattre. Devant lui, une poudingue tente de lui faire avaler un liquide noir en très pétillant, d'une texture rappelant le goudron.
Voilà pour ton colonel, mon cher Bio. Mes petites poudingues, enfermez-les dans les laboratoires. Je m'occuperai d'eux plus tard.
Oh là 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 là! Le voilà présentement enfermé dans les confins obscurs de l'usine Tartrazine. Mais le voilà qu'il réussit à se défaire de ses liens, à crocheter la serrure de sa cellule grâce à sa fourchette aérodynamique et à neutraliser ses geôlières.
C'est bon, Nugget, j'arrive à la rescousse.
Vite, Bio, alerte le commissaire Croquette grâce au micro-ondes d'urgence.
Bonne idée. Pendant ce temps-là, libère les légumes.
À la polyvalente publique de Technopolis, Sugar Boss continue sa tournée de promotion accompagnée des super chéris. Les élèves, complètement survoltés et surexcités, ont perdu tout contrôle de leurs agissements sous l'emprise du sucre les rendant hyperactifs. Ayant pris possession de leurs écoles, une émeute fait rage et des foyers d'incendie sont déclarés à plusieurs endroits dans l'école. La police, ne pouvant intervenir partout à la fois, dure contacter Gastrocnemia, Purpac, alias Amiral Bio, le frère du capitaine et ses sacro-saints soldats de l'environnement, spécialisés dans les opérations d'envergure planétaire pour tenter de calmer l'émeute qui fait rage à la polyvalente.
Mais enfin, que fait le capitaine Bio? Mais c'est la fréquence micro-ondes d'urgence du capitaine, prisonnier de l'usine Tartrazine. Sugar Boss est la responsable. Kentuck est prisonnier et empoisonné.
Une fois leurs uniformes retrouvés, nos deux comparses aident le colonel à récupérer ses esprits.
Vite, Bio, il n'y a pas de minute à perdre. La polyvalente doit présentement être à feu et à sang tellement la dose de sucre était élevée dans les derniers prélèvements que j'ai effectués avant ma capture.
Mais ce que nos comparses ont tout fait de découvrir au cœur même de la cité-usine, une immense monstruosité de plusieurs mètres de haut, ressemblant à un marshmallow géant, enfermée dans une immense fosse où des scientifiques affairés mènent des expériences douteuses.
Halte là, capitaine Bio! Ton souper est servi! Super chérie, libérez le Kimovobor! Mes petites poudingues, éliminez-moi ces vegans!
Mes amis, je ne sais plus où donner de la tête, tellement l'action est trépidante. Partout dans l'usine, les poudingues affrontent les vegans, tandis que les super-chéries révèlent Guimauve-Vor et affrontent nos héros. Sugar Boss contre Bio, Orange Sanguine contre Nugget, tandis que Kentuck affronte Toothpat Linda. Mais que vois-je là? Crystal Clear, la secrétaire particulière de Sugar Boss, est en train de saboter le réveil du Guimauve-Vor et d'ouvrir les portes à l'arrivée du commissaire Crockett. Sugar Boss vient tout juste d'avaler un concentré spécial qui multiplie par 8 sa vitesse de mouvement, rendant ses déplacements imperceptibles à l'œil nu. Mais notre capitaine avait tout prévu et vient de s'envoyer une dose de son mélange magique de concentré de jus racine biodynamique. L'action passe maintenant à une vitesse surnaturelle. Au niveau des deux concernés, l'univers semble brusquement ralenti. Mais l'effet du concentré chimique de Sugar Boss n'étant pas éternel, la voici tout affaiblie par le contre-coup glucémique de sa potion dévastatrice.
Ah ah! Voilà pour toi, Sugar Boss. Ta carrière de méchante principale vient de se terminer à l'instant. Je te condamne à un sevrage de sucre au jus de fruits naturels dans un centre de santé carcéral.
Capitaine, tu peux être fier de ton frère. Il a résolu l'émeute de l'école secondaire en distribuant des brosses à dents munies de l'antidote anti-empoisonnement alimentaire. Pfff!
Cet épisode du Capitaine Bio était une présentation des brosses à dents Indicator Cross-Action Performance pour une protection supérieure et une sensation bionique de fraîcheur. Maintenant avec Poigne Active Grip pour un brossage aérodynamique.
Ne manquez pas le prochain épisode du Capitaine Bio où celui-ci est invité à un repas avec les hauts dirigeants planétaires, le tout premier potlac à Toktoyoktok.
Ce qui conclut l'épisode 47 de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission car chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez deux minutes pour nous offrir vos commentaires, nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, de Marie-Claude Journeau, Jean-Baptiste Gardarin, Aurélie Superchico, Martin Junior Pelletier, Fiona Mill, Sophie Closier-Ouellette, Nicolas Desormeaux, Maud Campeau et Marie-Claude Journeau. La chanson-thème du Capitaine Bio est une création de Dominique Lagu. Un grand merci à Maurice Bolduc pour les propositions musicales. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé.
Non, va-t'en pas, bébé, monte pas sur tes grands chevaux. Reste ici avec moi, puis couche-toi sur le dos. On va jouer au docteur, puis au cabaret. Encore une fois.